Alors moi, j'ai pas d'image projetée, mais j'ai apporté une série de documents que je fais circuler. C'est des statuts de documents différents. Voilà. Donc là, il y a une petite publication qui parle d'une expérience qui a eu lieu à Lisbonne en 2000 déjà et qui était une expérience liée au flux, une sorte de jeu de piste. Il s'agit pendant 3 semaines de pister les flux de façon très naïve, les flux de passants à Lisbonne. Où on entre dans la ville, où on disparaît dans la ville, où on réapparaît, à quelle heure, pourquoi faire. Essayer de façon très empirique, comme ça, de comprendre ça. Et ça a donné lieu à cette petite publication. Voilà, je m'appelle Corinne Pontier. Donc, c'est le collectif ici même dont je me fais le témoin aujourd'hui. Donc, collectif qui existe depuis les années 92, qui vit et travaille plus ailleurs qu'ici, mais qui pourtant a son siège social au tout début, en 92, Place des Géants, et de 95 à janvier 2009, dans un lieu qui s'appelle le Brise-Glace, qui était rue Ampère, un lieu occupé illégalement jusqu'à cette année, et qui vient de fermer. Voilà. voilà. Et donc, ici même, regroupe, on va dire, 5 ou 6 acteurs. Qui viennent plutôt de l'art contemporain, mais qui parfois s'agrandit à beaucoup d'autres personnes. On est parfois jusqu'à une trentaine à intervenir selon les projets, selon nos économies de projets, selon des tas de raisons. Et dans ces grands regroupements, la particularité de ce d'ici même est d'inviter dans ces grands regroupements des personnes qui ne viennent pas forcément du monde de l'art. Donc nous avons parfois regroupé des architectes, des sociologues, des travailleurs sociaux, voilà. Un autre statut de petite publication, ça c'est un topo guide, parce que nous sommes des artistes marcheurs. Et donc voilà l'exemple de petit topo qui peut être distribué à l'entrée d'une petite marche exploratoire. Quelques cartes postales circulent, voilà. Et 2 livres, et c'est c'est un peu de cette expérience dont je vais vous parler. Donc c'est ce livre et s'appelle Les paysages étaient extraordinaires, justement. Ça a été prononcé ce matin, ce mot-là, extraordinaire. Cet ouvrage a été publié en 2004. Et retrace une expérience assez fondamentale, enfin fait trace, parce que j'aime pas le mot trace, en fait c'est plutôt, disons que dans notre projet il y avait une expérience, un protocole d'expérience assez fondamentale qui était la traversée de l'agglomération grenobloise en 3 semaines, soit 14 kilomètres à parcourir. Nous avions préparé cette expédition comme un voyage à l'étranger. Nous sommes partis sac au dos un 15 avril. Depuis donc Saint-Égrève, ce qui avait organisé la grande traversée de l'agglomération, c'était un trajet de bus qui a changé entre-temps, mais qui nous semblait être le plus long de l'agglomération. Donc voilà, c'était un peu notre... On était dans une position assez naïve, assez ignorante à l'époque, et vraiment avec un désir d'expérience. On avait bien sûr un peu lu De Bord, on avait bien sûr lu Espèce d'espace, on avait bien sûr... Si, on avait un livre de chevet de François Maspero, Les passagers du Roissy Express, comme ça. Par contre, on avait lu collectivement avant le départ. Voilà. Et nous voilà partis, donc, sac au dos, donc pour presque un mois de traversée. Et le voyage s'était organisé de façon... assez exceptionnel, puisque c'était quand même une commande de la Maison de la Culture de Grenoble à l'époque. Donc dans le temps du chantier, je ne sais pas si pour les Grenoblois vous vous souvenez, à cette période dirigée par Yolande Padilla, donc, qui nous avait passé commande pour ce travail-là. Donc une période de chantier, la Maison de la Culture hors les murs, et ici même invité à faire une proposition qui a couru donc sur 2 saisons. Voilà. Et donc nous on a proposé ce travail, donc ce voyage qui était un peu la première expérience numéro 1. Puis il y avait toute une série de protocoles d'expérience qui ont été déclinés sur les 2 années qui ont suivi et qui pratiquement pour tous ont été liés à cette première expérience très forte. Puisque là donc c'était 12 acteurs d'Issimène partis en voyage sac au dos, donc c'était pas... c'était une expérience un peu de disparition, d'invisibilité, et c'était ça la négociation très importante qui avait été faite avec la Maison de la Culture. C'était qu'on avait négocié notre propre disparition pendant donc un mois, ce qui était difficile à défendre au départ. Et après, il fallait négocier notre réapparition, parce qu'en fait, dans nos travaux, nous, on parle beaucoup de ralentissement. Par rapport à cette histoire de temps, on est dans des expériences vraiment de ralentissement et de dilution, d'infusion, rapport à l'infusion et la diffusion, d'invisibilité et du coup de visibilité. Et pour nous, c'est très important, ces notions-là, parce que ça a des impacts économiques dans notre activité directe. C'est-à-dire que pour un groupe d'artistes, négocier une disparition, ça a un prix. On n'est pas des chercheurs ou des enseignants-chercheurs salariés par... voilà. Et du coup, le prix de notre disparition, on est obligé de jouer avec ça. Le curseur se déplace selon les années, selon... Voilà. Et donc, cette première disparition d'un mois a été assez fondamentale. Donc, je redis, le protocole, c'était sac au dos, un rendez-vous par semaine public. Des négociations de lieux de bivouac dans l'espace public. Donc on avait pour chaque commune traversée un lieu de bivouac autorisé. Et tout un système qui avait été passionnant à inventer de nuitées chez l'habitant. Et l'engagement de chaque acteur, artiste de ce projet de ne jamais entrer en contact avec chez lui, de laisser son téléphone portable, et de ne pas aller chercher son courrier pendant un mois, et de se rendre vraiment étranger, d'essayer de tenter de se rendre vraiment étranger chez soi. Quoi, voilà. Donc c'était ça le protocole d'expérience. Il y avait un rendez-vous radio, c'est-à-dire que chaque année, chaque semaine, on livrait une sorte de carte postale sonore à Radio France Bleu Isère. Voilà. Donc quelqu'un en vélo partait en ville, déposait sa... et revenait rejoindre le groupe marcheur. Voilà. Nous sommes partis à 12 et nous sommes arrivés à 12. 2 enfants ont participé à l'expédition. Évidemment, c'est une expérience qui questionnait les limites et les frontières entre l'art, le mode de vie, l'habité. Enfin, voilà, il y avait toutes ces questions qui nous habitaient, justement. Par moment, nous avons été rejoints parce qu'il y a eu une rumeur qui a circulé sur ce projet. Donc, il y a eu des moments assez improbables, non prévus, de rencontres tout à fait spontanées, notamment sur les fins de semaine, des gens qui cherchaient à savoir où on était le samedi soir, qui nous rejoignaient. Il y a eu des improvisations de toutes sortes. Voilà. Et donc toujours ce rendez-vous public qui avait lieu quand même chaque semaine. On s'engageait à rencontrer le public donc sur le parcours. On avait communiqué des lieux de rendez-vous une fois par semaine et les gens nous pistaient pas en grand nombre, mais venaient quand même à ce moment-là. Donc ça, c'était cette première phase du projet. Et de cette expérience, on est toute une série de... Alors moi, j'appelle ça dispositif, parce qu'il y a beaucoup de questions de vocabulaire depuis ce matin. La question a été à un moment de se demander, c'est bien cette expérience, on disparaît à 12, on en entend parler quand même publiquement, mais c'est relativement discret. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle fabrique comme mémoire? Qu'est-ce qu'elle fabrique comme... qu'est-ce qu'on va avoir envie de rendre commun, de partager autour de cette expérience, voilà. Et voilà. Et ça a donné lieu donc à l'initialisation d'une série de dispositifs dont certains sont ceux qui nous font vivre aujourd'hui. comme par exemple, alors je fais un grand saut parce qu'on pourrait décliner toute une série d'actions qui sont nées de toute cette expérience, dont, alors je dis très vite pour vous donner une idée, puis je m'attarderai peut-être sur un des dispositifs en particulier. Donc il y a eu par exemple l'ouverture d'un lieu d'art contemporain éphémère dans un hôtel social désaffecté de l'avenue Alsace-Lorraine à Grenoble. Donc ce lieu est resté ouvert pendant 2 mois, du 25 octobre au 25 décembre inclus. Et c'était un lieu où toute cette expérience de dérive qui avait duré un mois apparaissait là. Un lieu qui était ouvert jour et nuit avec une cantine clandestine. Donc, qui a beaucoup travaillé sur la question de la rumeur, puisque c'est ce qui nous avait poursuivi pendant le voyage, comment cette expérience avait ouvert un espace de communication mystérieux. Et du coup, ça apparaissait dans cet hôtel-là. L'hôtel donc, était ouvert jour et nuit, il n'était pas très loin de la gare, donc de vrais voyageurs sont venus dans cet hôtel réouvert, des voyageurs spectateurs, et tout ce dispositif interrogeait justement la place de la personne spectatrice, qui n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. On ne savait plus qui était qui dans cet hôtel. Les dormeurs d'un soir, les marcheurs en train de raconter leurs histoires. Il y avait des projections de films dans la cuisine, des infusions sonores. Le CD qu'il y a dans ce livre-là qui circule est un travail qui a été qui provient de toutes ces séances. On a beaucoup collecté de sons pendant cette marche. Et partout où on s'est arrêté, il y a toujours eu des diffusions sonores, des infusions sonores, on appelait ça. Et c'était des mixages en direct, des sons collectés pendant l'expérience. Donc voilà, dans la cuisine de l'hôtel, on retrouvait ce travail-là. Il y avait une sorte, des jeux ont été inventés, comme le jeu de questions que vous voyez sur la couverture du livre là, qui était un jeu qu'on a appelé le tarot du souvenir, c'est-à-dire que le public dans cet hôtel était convoqué donc via la Maison de la Culture, c'était une convocation publique officielle. Donc tous les jours, on voyait arriver un groupe public à 20h, mais nous, on déclinait des sous-rendez-vous la nuit, le jour, le matin. Il y avait des départs de randonnée depuis cet hôtel. Et toutes les promenades qu'on fait encore aujourd'hui sont presque toutes nées de ces expériences qui ont eu lieu à ce moment-là. Voilà. Bon, je m'attarde pas sur ce dispositif qui était très intéressant du point de vue du croisement de public, justement, enfin, et de statut, de positionnement possible. Voilà. Après, sont nés de ce dispositif les agences de conversation, dont certains ont peut-être vu la trace à Grenoble. Donc, c'était un dispositif, l'agence de conversation, qui a circulé entre deux mandats électoraux, entre le mandat Le Pen-Chirac et puis le dernier mandat. Donc l'agence de conversation a circulé dans plusieurs villes de France et c'est aussi un dispositif qui est né pendant l'expérience du voyage, puisqu'on avait vécu ces élections pendant le voyage et que, paf, justement, dépaysement total, alerte, tout s'est arrêté une journée entière ce jour-là et on s'est mis à converser dans l'espace public. Et de ces conversations sont nés un dispositif. Alors pour nous, il y a une notion quand même assez importante, c'est la notion de série, par rapport à ce qui fait peut-être œuvre ou pas, art ou pas art. Le fait de répéter et de revenir sur... d'inscrire une action dans une idée de série et de temps, du coup, à répétition, est quelque chose qui, pour nous, souvent a fait sens et à donner du sens à une action. Voilà. Et un autre, donc, et pour continuer donc dans les initialisations de dispositifs qui ont couru après pendant plusieurs années, un des derniers en particulier est ce qu'on a appelé dans notre vocabulaire les concerts de Sonneville, qui sont nés donc aussi de cette expérience. La question était de s'interroger sur comment rendre compte de cette longue marche, de ce ralentissement un peu extrême, autrement que par des images, justement. Et c'est vrai que le son s'est petit à petit imposé à nous, enfin avec cette idée au départ de restitution de carnet de voyage. Comment faire vivre une expérience d'un mois, c'était impossible. Enfin, dans quel état ça nous avait mis? Et cette notion d'étrangeté, de dépaysement, de décadrage de nos habitudes, comment les faire partager ? Eh bien, ça a été dans un premier temps de fermer les yeux et de vivre soi-même un état de voyage, mais micro-voyage. Donc, comment inviter publiquement une personne à vivre cet état de voyageur ? Ça a été des petites marches au début, toutes petites, les yeux fermés, dans tout un ensemble d'autres actions qui étaient proposées et qui sont devenues aujourd'hui nos concerts de Sondeville, que vous pouvez, certains ont peut-être croisé là ces dernières années, et qui en sont à leur troisième vie, parce que c'est devenu une sorte d'expérience dont on n'arrive plus à se défaire. Il y a des choses comme ça, des fois, les concerts de Sondeville, j'ai l'impression qu'on va en faire toute notre vie maintenant. Et donc les concerts de Sondeville, c'est... Il y a eu plusieurs vies du concert de Sondeville, mais ce sont des propositions publiques, donc vraiment pour le coup avec convocation par les voies habituelles qui sont programmées dans des événements genre festivals ou même des maisons de la culture ou des lieux de culture où on invite le public à fermer les yeux et à marcher guidé par nos soins pendant 2 heures dans des lieux choisis à l'avance, et notamment les gares. On a beaucoup travaillé dans les gares ces dernières années. Cette proposition a été créée dans une gare de Budapest pour le Festival d'automne de Budapest. Et nous avons beaucoup voyagé avec ces propositions-là. Et du coup, les gares sont devenues des endroits un peu des centres névralgiques dans la vie des flux d'une ville qu'on a eu envie de traiter de façon un peu systématique. Donc on a une très grande expérience de guidage et d'acteurs guidés dans les gares Saint-Lazare, Marseille-Saint-Charles, Austerlitz, etc. etc. Bon, voilà. Et on aime beaucoup les gares. Voilà. Et notre rêve, c'est d'aller dans un aéroport maintenant avec cette proposition. Voilà. Un autre dispositif qui est également né de cette expérience un peu fondamentale, c'est ce qu'on a présenté à Veduta dans la première édition de Veduta, c'est les cinémas radioguidés, dans notre jargon ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire ce sont des propositions encore une fois publiques, où la convocation publique invite à un déplacement guidé par... une radio complice, donc on propose, des radios sont distribuées aux personnes qui sont venues, et avec des oreillettes, munies d'oreillettes, c'est très important, et on propose donc une promenade, un déplacement, ce sont des formats d'une heure à une heure et demie, avec une diffusion d'une pièce radio guidée qui a été écrite dans le contexte des lieux où elle se passe. Où la promenade se passe, voilà. Alors là, plusieurs expériences ont lieu. Il y a eu une dizaine d'écritures, des écritures très contextualisées, avec un travail de recherche, d'archives et de rencontres en amont avec des usagers, etc. Et puis aussi une écriture beaucoup plus générique, comme une écriture d'une pièce, d'un déplacement qui avait lieu dans deux villes différentes, donc à Bruxelles et à Marseille, le même jour à la même heure, avec deux radios complices, donc les ateliers de recherche de création radiophonique de Bruxelles et Euphonia et Radio Grenouille à Marseille, qui diffusaient la même pièce au même moment et qui, du coup, cette commande nous avait imposé donc une écriture beaucoup plus générique et un rapport à la ville assez distancié, et c'est peut-être... là où on est en ce moment, ici même, dans notre pratique, dans un rapport au territoire beaucoup plus peut-être éloigné en ce moment, par rapport à ces discussions et ces mots qui ont été dits ce matin sur la question de la fonctionnalité, de l'instrumentalisation. C'est peut-être un choix qu'on a fait, nous, de nous situer en ce moment dans un rapport à l'espace urbain un peu lointain, un peu éloigné de certaines problématiques, où parfois on s'est nous-mêmes senti instrumentalisés. Et voilà. Donc,
et c'est des indications qui sont données par la radio, ou c'est ce que doivent. Oui. C'est le trajet que doivent emprunter les.
Alors, c'est. Oui, ce sont vraiment des consignes radio qui jouent. Cette proposition radio guidée, elle joue à plusieurs endroits. Elle joue sur un effet de contamination, parce que c'est vraiment diffusé à la radio. Donc il y a plusieurs statuts là encore. Il y a un statut d'auditeur, un statut d'acteur participant. Et puis il y a les passants, les usagers de tous les jours de la ville qui sont là aussi. Et puis il y a aussi les automobilistes qui écoutent la radio dans leur voiture. Voilà. Et ces parcours sont écrits avec des consignes et jouent aussi sur la directivité et la non-directivité, puisque c'est vraiment une proposition qui est sur le fil de ce point de vue-là, puisqu'on propose vraiment de danser, justement. Enfin, y a une idée très chorégraphique avec les radioguidages, puisque c'est quand même des propositions qui s'adressent à des grands groupes, c'est des propositions de foule. Alors il y a des indications qui sont liées à la lecture du paysage, mais il y a aussi des indications qui questionnent les usages, le regroupement, le dégroupement, la force du groupe ou la non-force, enfin voilà. Et puis je vais m'arrêter là. Et en fait, j'avais apporté ça pour que pas du tout, pour que vous posiez des questions par rapport à ce bouquin-là. Voilà. Pas pour en faire un problème.
Mais si, mais en même temps, c'est important, ça marche. Est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, justement.
Par l'internet. Il demande où est-ce qu'on peut trouver du
livre. Ce livre-là, sur notre site, on peut le commander sur notre site. Et normalement, vous devez l'avoir au centre de documentation ici, si vous ne l'avez pas.
Non, je ne sais pas.
Voilà, ici même.org. Voilà.